Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Seigneur, nous voulons en effet nous tenir devant toi parce que tu ouvres pour nous cette table qui est tout simplement tes enseignements, enseignements de l'Évangile, enseignements de Jésus-Christ. Nous voulons simplement te demander que tu disposes nos cœurs, nos âmes, nos pensées, notre intelligence pour pouvoir saisir les vérités que tu veux replacer devant nous, que tu veux nous rappeler. Et Seigneur, bénis ta parole, bénis chacun d'entre nous. Et nous voulons en effet, Seigneur, te remercier à l'avance parce que tu nous dis tout ce que vous demanderez en priant avec foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous sommes maintenant dans la phase de recevoir de l'exaucement et nous te bénissons et nous te remercions parce que nous allons nous mettre à table devant véritablement un plat que tu as préparé pour que nous puissions être nourris dans toutes les dimensions de notre être. Merci Seigneur. Amen. Nous allons tout simplement ouvrir quelques pages de notre Bible et je voudrais vous indiquer dans le livre du Deutéronome. Attention, c'est le cinquième livre de notre Bible et il est question en effet de ce sujet que nous allons nous laisser enseigner. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 4. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Alors, il y en a eu des choses et des histoires avant que le peuple hébreu pénètre dans le pays de Canaan. Tout ça, ce sont des informations, des conseils, des recommandations pour que l'opération de cette conquête soit réussie, une réussite. Alors, j'ai bien dit Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 4. Voilà ce qu'il en est. Précisément. Dieu dit à son peuple, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Ce n'est pas une proposition d'une vie médiocre, mais c'est la vie. Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, je prendrai un autre mot, t'enseigne, te conseille, le texte c'est « te châtie comme un homme châtie son enfant ». Et il y a naturellement un acte d'amour, du mal à comprendre, un acte d'amour du Père vers les fils, vers le Fils de Dieu, vers le peuple d'Israël. On va prendre une deuxième lecture, si vous voulez bien. dans le livre de Jude. Il y a combien de chapitres dans le livre de Jude? Pardon? J'entends rien parce que je commence à vieillir et... Non, il n'y en a pas. J'ai bien dit chapitre. Non, mais c'est simplement pour tester si vous êtes bien réveillé ce matin parce que vous avez probablement mal dormi en raison des conditions climatiques. Mais je compatis avec vous, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, dans Jude, on va reprendre, on va vérifier. Il n'y a pas, il n'y a que des versets. Bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il précède le dernier livre de la Bible que l'on appelle l'Apocalypse, dernier avertissement du Saint-Esprit des prophètes, de tous ces hommes de Dieu qui ont traversé l'histoire, l'histoire racontée par la Bible, et pour nous dire, eh bien, c'est un petit peu l'introduction du livre de l'Apocalypse à travers ses dernières mises en garde. Alors dans Jude, on va simplement lire le verset 12 et jusqu'au verset 18. Alors Jude, c'est pas difficile, hein, vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, vous tournez une page vers la gauche et là vous allez le trouver, ce qui n'est pas facile, hein, une page. Alors, là on peut dire que c'est en quelque sorte l'analyse d'un monde perdu, en quelque sorte. Un monde qui, quelque part, s'imagine être un croyant, croire en Dieu, servir Dieu, et puis tout ce qui va avec, et qui est véritablement non plus le message évangélique, avec tout ce que nous dit eh bien, le Nouveau Testament, mais c'est tout simplement une religion. Alors on va faire la différence. Donc, Jude, verset 12. Il est question, tout simplement, ce sont ces hommes-là, c'est moi qui paraphrase, ce sont ces hommes-là des écueils dans vos agapes, dans votre communion fraternelle que vous pouvez avoir les uns avec les autres pour entretenir l'amour entre vous, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ça c'est l'orgueil manifesté, ce sont des nuées sans eau, elles sont poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, je viens de le dire, auxquels l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Voilà un peu plus loin. C'est ainsi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec des saintes Myriam pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les inspis parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont prophétées contre lui, les pécheurs impies. Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire le mot impie? C'est suivi finalement eh bien, d'une explication, les impiétés. La fausse foi, et il y a eu à travers tous les temps, mélangée avec des religions chrétiennes, des religions de toutes sortes, dans l'histoire, et bien là, des sociétés sur toute la terre, et de faire comme un syncrétisme. Il est question dans la Bible de la dernière Église. Il est question finalement de la super Église. Donc tout ça s'est réuni un petit peu dans tout, dans ce que je suis en train de vous dire. Le titre que j'ai donné, c'est « Garder, conserver la foi jusqu'au bout ». Nous avons reçu ce message de l'Évangile à transformer notre vie, n'est-ce pas? Si vous êtes là, c'est qu'il y a des raisons. De toute façon, vous n'êtes pas venu parce que bon... Il y avait une curiosité à satisfaire, philosophique, philanthropique, tout ce que vous voulez, on peut y mettre tous les mots en pic ou en isme, mais on est là parce que finalement nous avons été appelés par le Seigneur, nous avons répondu à son appel, et nous sommes aujourd'hui non pas des pentecôtistes, non pas des protestants, non pas des catholiques, des orthodoxes, et tout ce que vous voulez, vous mélanger avec toutes les autres religions non chrétiennes. Ouais. C'est parce que véritablement, nous ne nous attachons pas à une désignation, une appellation en isme, parce que ça c'est quelque chose qui, c'est terrestre, on peut dire c'est humain, mais c'est aujourd'hui notre position de la foi en Jésus-Christ, la foi unique que nous avons mis dans Christ qui est notre Rédempteur. Alors, j'ai donné le titre à notre réflexion, combattre, tout faire pour combattre et garder la foi en Jésus. Cette foi a été donnée une fois pour toutes. Hein, on peut le lire dans le texte de Jude. Oui, elle a été donnée une fois pour toutes. C'est pas la peine d'y revenir, quoi qu'il en soit. Le sujet principal de Jude, c'est tout simplement l'apostasie. Alors, c'est des mots compliqués, mais je vais vous les expliquer au cours de route. Parce que nous sommes vraiment dans des temps, peut-être, je ne le dis pas avec audace, mais dans des temps où nous pouvons parler de la fin des temps, le retour de Jésus-Christ, et il n'est pas trop difficile de deviner dans le monde dans lequel on vit. Lorsque nous prenons les médias, que ce soit en politique, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans le comportement tout simplement commun des hommes, que ce soit dans les familles, que ce soit dans le social, que ce soit d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas vous énumérer tout parce que c'est la vie. C'est la vie des hommes, ici, dans notre siècle. Eh bien, nous apercevons que tout est frappé, en quelque sorte, de révolte, d'opposition, de toutes sortes de choses semblables. Et on appelle ça l'apostasie. C'est un mot que je traduis qui veut dire le rejet de la vérité. Rejet systématique de la vérité. Alors, on ne va pas passer un film ce matin, mais vous avez suffisamment avec les médias, la télévision, Internet, etc., etc., de quoi vous renseigner et de la qualité de la vie des hommes sur la terre. On est effaré. Il faut savoir, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est véritablement le témoignage que nous laisse le monde, qui se dit un monde, eh bien là, qui a évolué avec le siècle des Lumières, hein, et qui se dit maintenant, eh bien nous sommes presque des dieux. Ouais. Et quand on voit que déjà le plus jeune âge n'est fait pas que ça, mais quand on voit ce qui s'est passé il y a 15 jours avec cette petite fille, quand on voit ce qui s'est passé encore hier, cette pauvre dame ou avant-hier, qui a été bousculée par un garçon, je crois qu'il avait 15 ans, sans motif aucune, avec une perceuse. Je n'en dirai pas plus. Mais je me dis, mais où est-on ? Vous savez, on pourrait dire que, est-ce que je dois le dire, mais les nazis ont été dépassés, hein, dans un monde de paix. Là, c'était la guerre. Alors l'apostasie, c'est ça, le rejet de la morale. Alors si c'est une morale religieuse, ça ne va pas loin, excusez-moi, hein, je ne suis pas... Non, parce que bon, je sais que j'étais religieux, mais aujourd'hui, l'Évangile a véritablement ouvert et ouvre les yeux des chrétiens, ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le parfait, et qui nous a dit des choses parfaites, et qui nous a dit tout cela pour que nous puissions nous développer, être heureux. Donc le sujet principal, c'est l'apostasie. Et ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça précède le livre de l'Apocalypse, 22 chapitres, il y a ce qu'il faut, hein. Alors pour certains, l'Apocalypse, ça les terrorise. Et pour nous, les chrétiens, c'est un formidable souffle d'espérance parce que le mal n'existera plus, la mort n'existera plus, les souffrances n'existeront plus, toutes sortes de choses. C'est véritablement eh bien, la réponse de la Genèse, en quelque sorte. Genèse, c'est la chute, et là, c'est véritablement eh bien, l'ascension et l'élèvement, non pas d'un jardin terrestre, mais d'un jardin céleste. J'espère que je ne suis pas trop compliqué, non, ça va ? Non, non. Bon. C'est aussi l'analyse que nous allons faire, rapide, d'un phénomène qui a été finalement, eh bien, tout au long des siècles, hein, les premiers âges, le Moyen Âge, la Renaissance, jusqu'à nous. On peut dire que quand même, on n'est pas bête hein, quand même sur Terre. On fait autant le bien que le mal. Oui, on soigne, mais on est capable aussi de faire des bombes atomiques. Hein. Là, ils sont en train de voir où est le bouton rouge pour savoir comment ça marche. Enfin, faisons attention. Et on a lancé des philosophies, la relativité. Bon, le mal, c'est rien. J'entendais ça à la télévision dernièrement. Il est dit, mais aujourd'hui, les crimes et tout ce qui se passe, même à partir des enfants qui sont adolescents, préadolescents et qui tuent. Ouais. Eh bien, faut tout relativer. Le mal n'existe pas. Le bien n'existe pas. Alors, il y a tout un enchaînement qui pénètre un petit peu en disant, ben voilà. Donc, c'est aussi ça. Nos devoirs de chrétiens, enseignés par Jésus-Christ dans son exemple, le témoignage qu'il nous a laissé, mourir pour nous, c'est quand même quelque chose. Hein. Un juste mourrait-il pour, finalement, un pécheur. Voilà. Eh bien, c'est un défi que nous avons à relever. Et ce défi, il se trouve précisément dans le livre de Juges. Il nous est donné les deux versions, le mal, le bien. C'est pour ça que nous devons conserver la foi jusqu'au bout, parce que finalement, eh bien, elle a été donnée pour toute à l'humanité. Tout ça, ça a été donné à l'humanité. Alors, conserver la foi jusqu'au bout, c'est là où va rentrer peut-être dans le vif du sujet et mes explications. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La vraie vie chrétienne, c'est pas d'aller à la messe, c'est pas d'aller au culte le dimanche, c'est pas de faire ceci, c'est pas de faire cela. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire dans le bien et au nom de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La Bible nous dit tout simplement que la vie chrétienne, c'est un voyage. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de voyages hein, en ce moment. Mais c'est un voyage et nous sommes des étrangers sur la terre, c'est-à-dire que c'est un passage tout simplement qui a sa durée, du début jusqu'à la fin. Ouais, ouais. Avec tout un processus naturel que nous a donné. Est-ce que nous nous souvenons lorsque nous étions un embryon dans le ventre de notre mère? Non, vous n'en avez pas le souvenir, il n'y avait pas de photo hein, à ce moment-là. Ou si des... Comment on appelle ça dans la médecine? Enfin bon, peu importe. Voilà. Hein, voilà. Les échographies, voilà. Et après, ça a été la vie. Mais elle a commencé progressivement. Le petit, l'enfant, le bébé, et puis ensuite le jeune homme, et puis ensuite l'homme fait, et puis le vieillard. Hein. C'est bien le grand regret hein, d'avoir passé ça, et puis de dire, mais il va falloir partir à un moment donné. Oui, mais il y a des raisons à tout ça. Alors, on peut dire que c'est un itinéraire, tout simplement, qui a été conçu par Dieu, et que nous devons suivre. De toute façon, on n'a pas le choix, à moins de mettre un arrêt à notre vie, naturellement. C'est une marche, et je voudrais finalement vous encourager, c'est une marche constante, toujours accompagnée à notre insu. Il y a un ami qui nous suit, parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, hey, c'est pas mal, hein ? Seigneur, je te cherche, mais Seigneur, pourquoi dis-je « je te cherche » puisque de toute façon, tu es là. Et tu n'es pas seulement avec moi, mais tu es en moi. Il nous est dit que le Saint-Esprit est en nous, avec nous, mais il est en nous, et il est le temple de notre corps. Donc il est là. Et nous savons qu'il est là. Et à savoir qu'il est là, c'est une assurance et une certitude. Ce sont des choses basiques que je vous rappelle. Hein. Parce que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout. Il est au ciel, il est sur la terre, il est en tout, partout, surtout. Et dans toutes les situations. Et ça, c'est l'invisible de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais te voir? Ça, c'était les prières de Moïse. Et puis de d'autres, des grands hommes de la Bible. Qu'est-ce que j'aimerais te voir? Montre-moi, Seigneur! Eh bien, le Seigneur nous parle par sa parole. Oui, vous me trouverez parce que je vous ai donné ma parole. Et Dieu n'a fait que quelque chose d'incommensurable, si je prends les mots peut-être un petit peu compliqués, mais qu'on ne peut pas mesurer avec notre intelligence, c'est-à-dire, vous voulez me voir, vous voulez me connaître, eh bien moi je vous envoie Jésus-Christ homme, il sera comme vous, mais sans péché. Et celui Finalement, Jésus répondra à un de ses disciples qui s'appelle Philippe. Il dira, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Vous cherchez Dieu? Regardez à Jésus. Écoutez Jésus. Prenez sa parole. Ça, c'est vivez sa parole. Vivez comme, finalement, il a vécu. Et puis, ressemblez-lui. Et là, c'est un bon témoignage chrétien. Alors, son omniprésence, l'invisible de Dieu, c'est la seule garantie pour garder la foi en lui. Pas la foi dans les hommes, pas la foi dans une religion, pas la foi dans une appellation religieuse, non. Mais c'est la personne de Jésus. Et c'est pas de le voir sur un crucifix. C'est pas de le voir là, à la coin des, au coin des chemins, sur une croix. Non, c'est pas ça. Ça, c'est physique. C'est religieux, si vous voulez. Avec tout ce que cela comporte, finalement, eh bien, de signes, toutes sortes de choses. Non, Jésus, il est visible si, véritablement, eh bien, nous le recevons dans notre vie. Il est là, il est dans votre cœur, il est dans notre cœur. Alors, les dangers de la route, parce que ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Celui qui se convertit à Jésus-Christ dans un idéal se trompe. Parce que la vie, c'est autre chose. Oui. Et c'est autre chose, les dangers de la route. Il y a sur notre route chrétienne des brigands. Oui, des gens qui veulent nous dépouiller. Qui veulent nous dépouiller de quoi? De notre foi et de nos certitudes. Il y a également des voleurs de grand chemin qui veulent nous dépouiller, eh bien, de ce que Dieu nous a béni, de ce que Dieu a fait pour nous, en disant, tu vois, là tu bloques hein, en ce moment, parce que tu es en train de prier pour quelque chose qui te tient à cœur et Dieu ne te le donne pas. Alors je voudrais rappeler ce que je rappelle souvent. Quand Dieu dit oui, c'est qu'il est d'accord. Quand Dieu dit non, c'est qu'il n'est pas d'accord. Et quand il te dit, attends, c'est qu'il a quelque chose de meilleur à te donner. Eh oui. Il y a toutes sortes de détrousseurs dans ce monde, dans notre vie, dans notre cheminement chrétien. Toutes sortes de détrousseurs. J'ai trouvé que ce mot-là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ceux qui piquent aux autres, finalement, eh bien, voilà ce qui nous est propre. Hein. Et j'aimerais rappeler très rapidement, eh bien, quelques anecdotes de migration mémorable. Parce que, vous savez, le monde, hein, on le voit, quel triste monde aujourd'hui, hein, qui passe de la Syrie à l'Angleterre, qui passe de ceci, de cela, où l'Afrique est en train de se vider ou de se remplir, hein, où en Amérique du Nord, là, on convoite de faire une grande Amérique réunie du Sud au Nord. Voilà, c'est toutes sortes de choses. Et puis tous ceux qui ne sont pas encore homologués pour pouvoir rentrer dans tel pays, eh bien, on les met dehors. On les laisse mourir sur place. C'est terrible. Ça, ce sont les grandes migrations. Ben, c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. La sortie d'Égypte avec quelqu'un qui n'était pas forcément très miséricordieux, c'était les pharaons, hein. Et quand on voit la fin du temps de Moïse, etc., etc. Là, pour rentrer dans le pays de Canaan, Dieu avait dit à Israël, je te donne un pays où coule le lait et le miel, un pays formidable, un pays où véritablement tu pourras vivre en paix dans ta maison et en paix aussi avec tous les pays tout autour. Ça n'a pas été ça. Hein. Ça n'a pas été ça. Regardez le Samaritain dans l'évangile de Luc. Ce pauvre garçon, il n'était pas juif, il était Samaritain. Il va d'un endroit à un autre, de A, je ne sais plus, et il se fait dans la montagne de Juda, hein, ça c'est les monts de Juda, il se fait massacrer, laissé par terre, ensanglanté par eh bien, un bandit qui surgit et qui va véritablement le laisser comme mort. Alors il y a bien des gens qui vont le rencontrer, ce pauvre homme qui est en train de rendre son dernier souffle. Vous savez qui c'est ces deux hommes? C'est un prêtre et un scribe, normalement qu'il aurait dû s'arrêter, hein. C'était vraiment le salut de l'époque. Hein. Ils vont passer, oh j'ai pas le temps, ils vont le regarder en disant, bon il est déjà mort. Bon. Et puis il y a quelqu'un qui va passer, ouais, et qui va le regarder, qui va le prendre, qui va sortir de l'argent, il va l'emmener à l'hôtellerie et tout ça, il va être soigné, il va être... Quelle différence, quelle différence. Et c'est vrai que nous pouvons rencontrer dans notre vie des moments où nous sommes sur le bord de la broute, où nous sommes malheureux, où nous avons été frappés, où nous avons été humiliés, où nous avons été écrasés. Et là, à ce moment-là, ne nous en faisons pas. Le plan de Dieu est là. Il nous enverra toujours un bon Samaritain, ou des bons Samaritains qui vont avoir compassion de nous. Ouais, sur la route de Jéricho. Les dangers qui sont signalés, c'est tout simplement lorsque nous avons affaire à l'impératif. C'est comme ça, c'est la loi. Voilà. Ou alors tout simplement toutes les interdictions. Vous avez votre permis de conduire. Hein, vous passez au feu rouge et vous arrêtez au feu vert. Enfin, j'espère. Bon, mais vous avez compris. Si vous ne me répondez pas, vous me direz, mais le pasteur, il n'est pas bien. J'ai eu qu'un procès verbal pour excès de vitesse en 50 ans de... Je me vante pas, mais je conduis. Alors, toutes les obligations, les impératifs, on l'a dit, les sens uniques. Ben oui, hier soir, j'avais un voisin qui me disait, parce qu'on est dans un quartier très tranquille quand même, hein, c'est une résidence, et on entend de plus en plus des motos pétaradées, des toutes sortes de choses, des gens qui crient, qui hurlent, et pourtant, c'était pas, c'est pas la nature du... Et il me dit, vous savez, maintenant, on a des jeunes en moto, en, comment ça s'appelle, trottinette et tout ça, ou en voiture, ils prennent les ronds-points à l'envers. Au lieu de tourner à droite, ils font dans l'autre sens. Je me dis, mais il va y avoir quelque chose. Surtout, c'est à côté d'une école. Il y a des écoles pleines, là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Donc, il y a un code. Eh bien, avec Dieu, il y a un code, mais c'est un code bienveillant. Un code pour nous aider, finalement, à nous protéger nous-mêmes et encore plus à protéger les autres. Vous connaissez la ligne blanche? Quand ça presse un peu de trop et qu'il fait trop chaud dans la voiture, on se dit, allez, on y va, il n'y a personne. Puis, quelques temps après, quelques kilomètres après, vous voyez deux képis qui sortent d'un buisson. Bon. C'est à vous de payer, hein, naturellement, c'est pas les autres. Alors, liberté d'obéir ou non, c'est ça, finalement. Mais nous avons été avertis. Et qu'est-ce qui nous avertit? C'est la parole de Dieu. Entre autres, les derniers avertissements, eh bien, c'est Jude. Société de provocation à l'ordre. Aujourd'hui, vous savez, les gendarmes ne se mettent pas devant un capot de voiture quand ils arrêtent une voiture. Hein. Ils se mettent sur le côté. Hein. Parce qu'il y en a qui ont laissé leur peau. Les fous. Voilà. Pas les gendarmes. Oui, il y a des sécurités pour garantir la vie. Et c'est Dieu qui l'a donné de cette manière. Alors, on va aller encore un peu plus loin. Moi, je voudrais vous parler des blessés du chemin. Parce qu'il y a toujours des... Il y a toujours des responsables, il y a toujours des inconscients, il y a toujours des révoltés, des rebelles, etc., qui n'ont rien à faire avec eh bien, les règles de la vie, tout simplement. Et puis, est-ce que nous pensons aux blessés du chemin? Je pense à le pauvre Samaritain, oui. Dieu était avec un étranger, parce qu'un Samaritain, c'est un étranger. Il n'était déjà pas raciste à l'époque. Alors aujourd'hui, on peut toujours souligner la chose. Et ces conséquences que les infractions eh bien, peuvent causer des blessures et des souffrances. Et quand Dieu nous donne des défenses, croyez bien, ce n'est pas pour nous enquiquiner, ce n'est pas pour nous, finalement, nous punir. Moi, j'aime pas ça, hein, que l'on parle du mot punir en disant « il t'arrive ceci, mais c'est une punition ». Non, ce n'est pas une punition, c'est une école et une éducation. C'est pour nous garder, mes frères et sœurs. On va aller encore un peu plus loin. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais bon, on continue. Je vous ai parlé tout à l'heure de la présence de Dieu, de cet appui indéfectible de celui qui prévient pour nous sauvegarder, c'est ce que je viens de dire, et pour nous donner une espérance d'aller plus loin, un encouragement sûr, et nous donner des garanties. Et vous savez ce que c'est? Comment elles s'appellent les garanties de Dieu? Ce sont les promesses. Oui, Dieu nous fait... Il y a des centaines et des centaines de promesses dans la Bible. Et cherchez-les, vous allez voir, hein, vous allez en trouver, avec des beaux versets, à travers des livres poétiques, par exemple, je pense hein, au livre des psaumes, etc., qui nous font tant de bien lorsque nous passons par des moments de tempête et que nous lisons, eh bien, tout simplement, eh bien, c'est « reste calme hein, », mets ta foi en Dieu, il est là, il te soutient, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça vient à un moment ou à un autre. Hein. Alors c'est ça les garanties. Promesse au fond des cœurs que nous gardons, que nous conservons, la certitude spirituelle, c'est-à-dire de savoir entretenir la foi comme un beau jardin. On peut le dire de cette manière. Il y a aussi les poisons de la désobéissance. Poison de la désobéissance qui nous rend malade. Parce qu'un poison, ça rend malade, hein, en principe. Vous avez déjà goûté des ammonites phalloïdes, non? Ce n'est pas conseillé. Hein. Parce que là, vous allez. C'est un champignon. Hein. Alors, désobéissance qui rend malade, qui nous donne la fièvre des passions, nous ne pouvons pas finalement nous maîtriser. Et nous sommes pris dans une passion morale ou immorale d'une manière ou d'une autre, je peux rentrer dans les détails, mais les passions de la folie, de l'irrespect des conseils que l'on entend, que l'on donne à nos enfants, et qui ne tiennent aucun compte, et à un moment donné, eh ben, ils vont plus loin, et puis ben, ils se brûlent, hein, tout simplement. Ce sont du préventif que Dieu nous donne, et nous avons besoin d'apprendre une grande leçon, c'est savoir identifier, c'est-à-dire une demande que nous adressons à Dieu de perspicacité et de discernement, savoir choisir entre le bien et le mal. Moi, je ne veux pas être critique, parce qu'on était mélangé un petit peu avec tout ça. Et vous savez qu'il y a une grande fête à Clisson, là, ensemble. Alors, moi, je veux pas... Il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord, etc. Mais quand on voit le comportement d'une jeunesse et même d'une vieillesse, vous savez, les vieux 68 ans qui sont restés à l'âge infantile. Bon, excusez-moi, mais... Parce que moi, j'ai fait Paris. J'ai fait le coup de force à Paris, en 68 et tout ça. Mais je me dis, mais... Quelle vie pour eux. Et j'ai ouvert la télévision et je les ai vus par centaines. Je crois qu'ils sont plus de 100 000, hein, je crois, à Clisson. Ils étaient avec le signe du diable. Voilà. Mais tous, enfin, pas tous, mais moi, ça m'a choqué. Parce que le commentateur, le journaliste a dit, c'est un hommage et c'est tout simplement la fête du diable. C'est le contraire de la messe. Hein. C'est le contraire de la religion. C'est le contraire du message de l'évangile. Je me dis, mais des beaux gars, des belles filles, des gens qui, quelque part, sont des gens qui peuvent réussir hein, dans la vie et tout ça, et se livrer à des excentricités, aboyer, grogner, se rouler par terre, se déshabiller. Moi, je me dis, mais il y a quand même quelque chose dans notre société. Hein. Ça, c'est le retour aux années folles après la guerre de 14. Hein, c'était terrible ça aussi. Moi je dis il y a un danger pour ces gens-là. Et vous y ajoutez l'alcool, la drogue, toutes sortes de perversions. Excusez-moi, moi je ne voudrais pas choquer les gens, mais nous avons des enfants aussi. Et nous savons ce que c'est. Moi j'étais à Amsterdam, je sais ce que c'est de voir des gens tomber, qui sont morts maintenant, hein, au Paradiso. Vous savez, c'est une église catholique qui avait été transformée, mais c'était des centaines et des milliers de personnes qui y allaient. Hein. Et puis, je peux dire aussi que nous connaissons même, dans le cadre de nos familles aussi, des gens qui touchent à la drogue. Je peux vous dire, c'est une détresse innommable pour les parents, pour les grands-parents, pour ceux que nous avons connus petits et qui aujourd'hui sont véritablement à côté. C'est terrible. On peut penser qu'il y a de quoi pleurer hein, dans tout ça. Marcher droit et d'une manière, eh bien là, correcte, normale, sans tout casser, hein, y a pas de problème. Hein. Parce que nous croyons que ce genre de comportement provoque l'ennemi. Dieu veut sauver et le diable veut perdre. Il veut nous faire couler. Il veut véritablement nous enfoncer de toute manière. Hein. Vous savez où il est le diable? Il se cache dans les buissons d'épines. Parce que ça fait toujours mal quand on veut s'en sortir. Sortez d'un buisson d'épines, vous allez voir. Pour avoir la liberté. Pour avoir la lumière. Et bien lui, il se cache dans un buisson d'épines. C'est comme ça que je l'ai vu. On va lire maintenant, si vous voulez, dans Jude, chapitre 8. Excusez-moi, il n'y a pas de chapitre. 8 et 16. Il est dit ceci. 8 et 16. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par des rêveries, souillent pareillement leur chair, leur corps, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Alors il est question de, tout simplement, et bien là, de toutes sortes de comportements hein, qui sont mentionnés. Alors, il nous est dit que ces gens parlent d'une manière injuste, injurieuse, même à Dieu, même aux autorités politiques, aux autorités religieuses, d'une manière ou d'une autre, pensant que nous sommes nous, bien au-delà. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans un salaire pour l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc tout ça, eh bien, ce sont des faits qui nous sont rappelés. Trois règles qu'il nous faut, c'est éviter, méfiez-vous des séductions. Il y a des gens qui parlent bien, il y a des gens qui sont capables de faire des miracles. Moi, je pense à l'occultisme, hein, qui sont capables de reproduire même les miracles de Jésus. Hein, c'est ce qu'on a vu de Moïse et Pharaon, par exemple, avec l'histoire des serpents et puis toutes sortes de choses. Bon, je pense que la vigilance, nous devons être des gens perspicaces parce que nous sommes avertis. Nous avons également être vigilants et prudents en toutes choses. Il nous est dit, soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Montez sur la queue d'un serpent, il ne va pas vous oublier. Oui. Et cela nous garantit l'immunité. Immune. Vous savez, c'est écrit dans la Bible. Si tu fais attention à tout ça, ce dangereux serpent, qui n'est qu'autre finalement, eh bien, le diable, eh bien, si tu prends garde, si tu fais attention, si tu ne fais pas n'importe quoi, il nous est dit, eh bien, le diable ne le touche pas. Il ne le touche pas. Cependant, avoir les yeux fixés sur le but à atteindre, c'est le royaume des cieux, mes frères et sœurs. On ne travaille pas pour finir dans une belle maison, dans un palais, à Versailles, ou tout ce que vous voudrez, non. C'est pas le but de notre vie. Mais c'est le palais d'ivoire qu'il y a dans le ciel pour tous ceux qui auront été fidèles. Tout simplement, royaume de Dieu. Et là, il faut garder la foi pour aller de l'autre côté. Et la foi, ça ne sera plus la foi. Ça sera quelque chose que nous aspirons sur la terre. La vue. Nous verrons Dieu. Nous verrons Jésus face à face. Comme lui, il nous a vus. Comme nous, il nous connaît. Et nous aurons une place de l'autre côté. Mémoire des temps d'expérience. Souviens-toi, eh bien, pour aller jusqu'au bout. Oui, je souffre. Oui, j'ai été persécuté. Oui, j'ai été écrasé. Oui, mais il y a quelque chose qui nous sera donné. C'est pour ça que, véritablement, Jésus dira dans les Béatitudes, eh bien, priez pour ceux qui vous font du mal. Donnez-leur, finalement, le respect qu'ils ont manqué pour vous. Et là, nous voyons que Dieu est capable de changer les choses. Paul dira, avant de mourir, il dira cette parole, « J'ai gardé la foi et la couronne de gloire m'est réservée. » C'est ça le but de la vie chrétienne. Je finis. Ah, bonsoir. Pas la qualité, mais la quantité de notre vie. Qualité. Oui, oui. Aujourd'hui, on cherche la quantité, la consommation, n'est-ce pas ? Qualité des promesses qui nous donnent d'utiliser des armes victorieuses, c'est la patience, c'est le courage, c'est l'endurance, supporter. On appelle ça aujourd'hui d'un mot nouveau, la résilience, le lâcher prise. Quelquefois on se bagarre comme des beaux diables. Non, un diable n'est pas beau d'abord, mais on se bagarre, on se déchire, on fait toutes sortes de choses. Eh bien, ce sont des qualités, et nous avons besoin de nous camper dans une vie de piété. Vous savez, prier, c'est agréable, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors c'est sûr que si vous récitez une centaine de fois des « Je vous salue Marie » trois fois par jour, ça peut être lassant, hein, ça c'est sûr. Mais on prie dans notre cœur, on prie silencieusement, on rentre dans notre chambre, on dit quelques mots avec des... Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est faux. Et c'est Jésus qui rectifie. Tu pries dans ton cœur, simplement. Ce n'est pas la peine de le crier sous les toits, hein, naturellement. Donc, la marche de piété, la foi en vue, la rencontre heureuse avec la ligne d'arrivée céleste. Oui, je cours, mais je ne cours pas comme battant à l'air. Je ne cours pas comme les athlètes d'une manière ou d'une autre. Ils le font pour une couronne pas une couronne d'épines, mais une couronne de gloire, tout simplement. Notre couronne, elle sera certainement d'un autre type. Parce que il est dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification ne peut pas se tromper avec la sainteté que les religions distribuent quelquefois, vous savez. Hein, il a été ceci, il a été cela, ou elle a été ceci et cela. Ça, c'est la sainteté selon la religion. Mais la sanctification, c'est véritablement être comme Jésus, parler comme Jésus, aimer comme Jésus, vivre comme Jésus. C'est ça, et c'est notre temps hein, pour nous. Hein. L'espérance d'un autre monde, qui sera celui-ci parfait, je parle du ciel, hein, qui sera définitif, hein, et qui poussera en nous, même dans nos tribulations que nous pouvons avoir dans notre vie, l'espérance d'un autre monde, finalement, d'avoir atteint un soupir, d'avoir atteint l'objectif ultime, le vrai sens que Dieu nous a adressé à travers son appel. Oui, je peux dire, eh bien maintenant je suis arrivé au bout. C'est véritablement la grâce de Dieu. Alors, en route, oui, en route, et que faisons-nous en attendant dans cette vie qui passe, hein, qui nous fait passer aussi toutes les étapes de l'âge, toutes sortes de choses, que faisons-nous en attendant? Eh bien, je dois m'employer autant que ça m'est possible, autant que j'ai reçu des dons de la part de Dieu, autant que je peux finalement, eh bien là, savoir ce que Dieu m'a attribué, parce qu'il a attribué à chacun d'entre nous, soit dans la vie professionnelle, soit dans des capacités, dans la musique, enfin toutes sortes de choses, les mettre au service de Dieu. Eh oui. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, nous devons nous appliquer à entretenir notre foi. Nous avons à nous appliquer, à croître et à parvenir à maturité. Vous savez, il y a une grande différence entre un garçonnet ou une petite fille de 5-6 ans et puis un grand-père. On ne parle pas le même langage d'abord. Mais physiquement, psychologiquement, dans tous les domaines, naturellement. Eh bien, c'est ça ce que Dieu veut. Quand nous nous convertissons au départ, nous sommes comme des enfants, nous balbutions. Et sur le plan spirituel, nous ne connaissons rien. Il faut tout apprendre au pied de Jésus, à travers sa parence. Après, il y a l'école primaire, il y a l'école secondaire, il y a l'école universitaire. Et quand vous arrivez à la fin de votre vie, vous avez appris tellement de choses. Du monde, des hommes, vous ne faites plus d'illusions, hein, ça c'est sûr. Et puis vous avez appris à connaître Dieu et à l'aimer de plus en plus. Et quand l'on rencontre, quand on part de l'autre côté, quand on le rencontre, eh bien, on peut lui dire, mais Seigneur, tu m'as appris à te connaître, et maintenant tu es ma vie pour l'éternité. Ah oui, je pense que c'est ça. Alors, la croissance, la maturité, grandir, et Paul nous dit ça sous une petite expression, l'homme fait en Jésus-Christ. L'homme fait en Jésus-Christ. Je finis. Ça va ? Un exemple de confirmation. Vivre au milieu de Sodome et Gomorre. Alors nous avons un texte qui quelque part eh bien, est censé de nous parler dans 1 Pierre où il est dit cette parole, non 2 Pierre, cette parole où verset chapitre 2, il nous est donné eh bien là une clé pour comprendre. Verset 2, chapitre 2 et verset 7. Chapitre 2, verset 7. Voilà. Il nous est parlé, donc, il a condamné à la destruction, c'est Dieu, et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, les impies de tous les temps jusqu'à maintenant. Et s'il a délivré, si Dieu a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dérèglement, pardon, juste ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et ils entendaient. Vous connaissez Lot ? Eh oui ! C'était le neveu d'Abraham. Voilà. Et il a fait le choix, lui, de choisir le mauvais chemin, le mauvais endroit, la mauvaise ville, parce qu'il voulait s'enrichir. Il s'est dit, mais il y a du monde là-bas, on fait la fête, parce que dans les villes, on fait les fêtes, on fait toutes sortes de choses. C'est mieux que d'être perdu sur un chalet dans la montagne, où était finalement Abraham. Il dit, moi je m'ennuie ici. Alors il est descendu, mais il ne savait pas ce qui l'attendait. Parce que finalement, il est tombé dans une ville de corruption, Sodome et Gomorre. C'est ce que l'on dit hein, quand on veut dire qu'il y a un milieu qui est complètement pourri. Hein. C'est ça. Hein. Et puis à un moment donné, il a payé le prix parce que finalement, il y a eu comme un cataclysme qui est venu. Et toute cette région, eh bien, était complètement incendiée. Il ne restait plus rien. Tous les gens de Sodome ont été véritablement, eh bien, emportés. Sa femme, qui avait encore une partie de son cœur derrière elle, en disant « Mais qu'est-ce qu'elle était belle, ma maison ?» Ben, elle n'a pas vu longtemps parce qu'elle a été transformée en statue de sel. Si vous n'avez pas de salière, relisez le terme. Ouais. Et ça, c'est des images de l'Ancien Testament, c'est vrai, avec une mentalité des hommes de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, mais nous voyons la même chose se reproduire. Des gens qui descendent, qui bafouent finalement la vérité, les avertissements, toutes sortes de choses. Parce que vous avez remarqué, Lot, hein, il tourmentait son âme, il était juste, c'est vrai, mais pas tout à fait juste. Il avait encore le cœur partagé, et quand il regardait encore là, eh bien, tout ce qui se passait, il se disait, mais c'est pas possible que je reste dans cette ville-là. Pas possible que, finalement, ça dure comme ça. Bon, il y a eu une catastrophe, parce que je voudrais vous dire les catastrophes que nous avons aujourd'hui. Il y en a pas beaucoup, hein. Bon, mais il y a quand même quelque chose derrière. C'est la terre en convulsion, hein. Faut bien dire. Et il y a quelquefois, eh bien là, des centaines et des milliers de gens qui disparaissent. Il ne supportait pas dans sa conscience de rester dans ce milieu parce qu'il était complètement corrompu. Traverser du désert et sa solitude, sortir du monde de l'Égypte. C'est aussi une option. Le monde perdu et sa mentalité, où un chrétien va avoir du mal à vivre, parce qu'il va voir, il va entendre, il va partager peut-être certaines choses, malgré lui d'ailleurs, hein, parce qu'il va être emporté finalement par la vague. La vie sociale, la vie religieuse en Canaan, les contestations, les révoltes, les révolutions, nous pouvons dire, pour nous dire tout simplement, et je termine, préserve-toi de l'orgueil. Un chrétien est un homme humble et modeste. Préserve-toi de l'orgueil. Et quand on sait que parmi les pharisiens, ces hauts sommités, finalement, du temps de Jésus, étaient des hypocrites orgueilleux. Et c'est eux qui ont fait crucifier Jésus. Gardez l'assurance de pouvoir dire, au grand jour du départ, Paul le cite, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi qui a été transmise aux chrétiens une fois pour toutes. » Mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu vous aide. Restez fidèles, non pas à l'Église. C'est pas ça, c'est ce secondaire, si vous me permettez que je le dise. Non, restez fidèles à la personne de Jésus, à sa parole, à Dieu qui vous a créé pour un but et un objectif. C'est finalement bien le ciel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que ces juges s'est senti obligé, c'est le texte, il s'est senti obligé d'écrire une lettre pour prévenir les hommes et les femmes, chrétiens de son temps, hommes de foi, parce que, en effet, nous savons que c'est tout simplement le livre de Jude est un édito avant un commentaire, avant véritablement, eh bien là, une exposition des faits de ce qu'est notre monde. Seigneur, nous voulons te rendre grâce dans un temps où les choses vont mal, mais elles ont toujours été mal, mauvaises. Mais nous savons que nous pouvons peut-être prendre, nous, une position, eh bien, pour entendre que tu nous appelles à sortir de l'Égypte, du monde, à véritablement ne pas nous laisser influencer par des prétendues religions qui n'ont rien d'évangélique. Oui, c'est tout simplement la hiérarchie des hommes, avec un clergé, avec véritablement, eh bien là, toute une structure, en effet, bien organisée, nous pouvons dire, avec des fêtes, avec des réjouissances, avec toutes sortes de choses, avec des cérémonies, des sacerdoces. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous, notre vrai sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Et notre Père Céleste, il s'appelle tout simplement notre Dieu Créateur. Et nous te bénissons et nous te remercions. Moi, je te remercie parce que lorsque j'étais jeune, tu m'as appelé. Pour certains d'entre nous, tu nous as appelés jeunes. Mais certains, eh bien, sont venus peut-être plus tardivement. Mais ils sont encore là, au milieu de nous, parce que vraiment, ils ont été conquis dans leur cœur que Dieu est sauveur à travers la personne de Jésus qui est mort à la croix pour chacun, pour chacune, et cela pour nous donner l'éternité. Merci, mon Dieu, de tout mon cœur, de tout notre cœur. Amen.